Bonjour à tous et à toutes. Esther Demoulin, vous êtes l'autrice de « Beauvoir et Sartre, écrire côte à côte aux impressions nouvelles », qui est un travail issu de votre thèse de doctorat. Vous êtes actuellement maîtresse de conférences à l'Université Paris-Cité. Vous publiez aujourd'hui avec Sylvie Lebon de Beauvoir les écrits et paroles féministes de Simone de Beauvoir chez Gallimard, qui sont un recueil de ses interventions médiatiques, de ses entretiens et de ses préfaces, qui couvre la période de 1949-1985 et qui comporte des inédits de Beauvoir. Vous préfacez également Le deuxième sexe, qui fait cette année son entrée dans la Pléiade pour le 40e anniversaire de la disparition de Beauvoir, ce 14 avril 2026. Pourquoi était-il donc important de faire entrer Le deuxième sexe dans la Pléiade ?
Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors pourquoi c'était important ? Il faut peut-être déjà parler des réactions qu'il y a eu dans la presse au moment où, où la Pléiade est sortie. Puisque c'était des réactions un peu étonnantes. Il y avait cette surprise que la Pléiade n'ait pas déjà été publiée. Et cette surprise, je pense qu'elle dit en fait pas mal de choses de la réception de Beauvoir aujourd'hui, à savoir que elle a à la fois toute sa place et toute sa légitimité. Donc on considère que c'est tout à fait naturel en fait qu'elle soit dans la Pléiade, et en même temps elle est déjà tellement un peu connue que il n'y a pas vraiment de surprise, et donc on va pas forcément la relire. Enfin, il y a une sorte d'entre-deux un peu assez particulier. Et souvent, c'est quelqu'un qui est très connu, mais pas forcément lu. Donc ça, je pense que c'est assez, assez frappant. Et puis, il faut aussi bien rappeler le fait que c'est une Pléiade qui suit donc la Pléiade des Mémoires, qui avait été publiée en 2018, donc sous la direction de Eliane Le Carme-Tabone et Jean-Louis Janel, qui était une Pléiade qui avait très bien marché, qui était une très très belle Pléiade. Qui avait suscité alors quelques critiques plutôt dans les milieux féministes et plutôt anglo-saxons. Pourquoi est-ce que Pléiade, Beauvoir était rentré dans la Pléiade par les Mémoires et pas par Le deuxième sexe, avec un petit peu ces critiques féministes sous-jacentes qui disaient est-ce qu'on n'est pas en train de réassigner un petit peu encore une fois une femme à la sphère de l'intime, et ça c'était c'était une critique qui s'entendait, mais qui, à mon sens, ne correspondait pas trop à l'ambition, disons, de Beauvoir, puisque si on revient un petit peu à la jeunesse du deuxième sexe, on sait qu'au départ, Beauvoir, elle voulait plutôt écrire sur elle-même. C'était ça, l'ambition de départ, c'était plutôt d'écrire une autobiographie. Et donc, il y a un peu deux moments clés. Il y a l'année 39, où elle écrit son journal de guerre, et on retrouve une notation que je rappelle dans l'introduction, où elle dit il faudrait vraiment que je m'interroge un petit peu sur ce que, sur ma féminité, à quel point je suis de mon sexe et à quel point je ne le suis pas. Donc ça, c'est une première question qui arrive. Et puis en 46, il y a ce désir qui revient, alors toujours ce désir d'écrire sur soi. Et Beauvoir se rend compte que pour écrire sur elle-même, il va plutôt falloir qu'elle commence d'abord par une réflexion sur la condition des femmes, sur ce que ça signifie que d'être une femme. Et ça va être un point de départ du projet autobiographique, donc. Mais c'est aussi un point de départ épistémologique qui est vraiment important et sur lequel elle va vraiment commencer la réflexion du deuxième sexe, c'est de dire, en fait, c'est assez signifiant que moi, je me pose cette question-là. Un homme ne se serait jamais, en fait, posé cette question. Un homme qui veut écrire sur lui-même n'irait pas se dire qu'il faut écrire un essai de 1000 pages sur la masculinité. Et donc, elle part de là pour réfléchir, en fait, à son point de vue. Et ça, c'est le point de départ du deuxième sexe, mais c'est aussi le point de départ d'une discipline qui naît à ce moment-là et qui est la philosophie féministe. Puisqu'on avait déjà eu des philosophes hommes qui s'intéressaient à la question des femmes, certes, on avait déjà eu des femmes philosophes, mais on n'avait pas encore eu une femme philosophe qui allait s'interroger sur la question de ce que c'est en fait que d'être une femme. Et donc il y a vraiment ce point de départ essentiel, donc dans l'introduction, qui dit bon ben qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'une femme, et Beauvoir répond je suis une femme. Et donc il y a vraiment cette idée essentielle dans la philosophie de Beauvoir que pour pouvoir écrire sur elle-même il faut d'abord réfléchir à ce qu'est une femme, et pour pouvoir réfléchir à ce qu'est une femme il faut aussi quand même réfléchir sur soi. Ce qui fait que je reviens un peu à la question de cette Pléiade, le fait qu'elle arrive après les mémoires, pour moi, ça rejoue en fait en quelque sorte la genèse aussi, ou l'ambition, disons, de la genèse de ce texte. Donc je trouve ça assez beau en fait.
Et quel fut le contexte en 1949 dans lequel est paru le deuxième sexe politiquement?
Alors c'est un contexte qu'elle explicite un petit peu. À certains moments, puisque elle dit dès l'introduction que c'est une période de transition, qu'elle écrit dans une période de transition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la fois il y a eu des avancées importantes pour les droits des femmes, notamment le droit de vote, qui est d'ailleurs un élément assez structurant pour Beauvoir. Alors on a beaucoup reproché le fait qu'elle tacle un petit peu dès l'introduction, notamment les suffragettes et puis les féministes qui l'ont précédée. L'hypothèse que je fais dans l'édition, c'est plutôt qu'elle se rend compte progressivement que pour penser l'action des femmes, il ne faut pas passer par l'action du droit. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on voit très bien dans un des inédits de la Pléiade, qui est en fait un avant-texte. Donc, puisque je le rappelle, hein, le deuxième sexe, il y a deux volumes. Il y a un premier volume qui s'appelle « Les faits et les mythes », et puis un deuxième volume qui s'appelle « L'expérience vécue ». Et chacun de ces volumes hein, a connu des avant-textes hein, qui ont été publiés dans les temps modernes, cette revue que Sartre, Beauvoir et Merleau-Ponty avaient créée en 1945. Et donc, le tout premier de ces avant-textes s'appelle « La femme et les mythes », qui date de 1948, qui donc est repris dans la Pléiade, dans les inédits, dans les annexes. C'est un texte où l'action du droit est encore très présente. Et ce que Beauvoir va remarquer, c'est qu'il y a une sorte de distorsion très forte entre l'action du droit et l'action des mœurs, et que ça va plutôt dans un sens inverse, c'est-à-dire que plus les femmes ont des droits, moins les mœurs leur sont favorables, plus elles sont plutôt opprimées en fait dans la vie plutôt sociale, et à l'inverse, moins elles ont de droits et plus elles ont une sorte de liberté de mœurs. Donc ça, c'est capital. Et à mon sens, c'est aussi pour ça que la question du droit de vote ne l'intéresse pas tellement. Et pourquoi elle est si dure avec les suffragettes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans un des textes des années 70, donc dans les écrits et paroles féministes, elle revient sur ces attaques et elle sera beaucoup plus indulgente par rapport aux suffragettes aussi, parce qu'elle en avait sans doute une vision peut-être plus réformiste que la réalité. Donc voilà, c'est une période de transition à la fois parce qu'il y a la question du droit de vote qui vient d'être accordée. Et puis en même temps, alors l'autre avancée qu'il faut rappeler, c'est que depuis 1938, les femmes ne sont plus soumises à un droit d'obéissance à leur mari. Donc il y a eu cette réforme-là. Et puis en même temps, ça va quand même pas très très bien pour les femmes. On sait qu'elles n'ont toujours pas le droit d'ouvrir un compte en banque sans leur mari, que c'est le mari qui choisit le lieu du domicile, qui choisit si elle peut ou non exercer un métier. Et puis c'est une époque qui est particulièrement familialiste. Évidemment, on est juste après la guerre. Puisqu'elle va commencer à penser, en tout cas à l'essai en 1946, et elle va surtout l'écrire en 1948. Mais donc c'est un moment où il faut repeupler la France, et ça c'est vraiment, une injonction qu'on retrouve de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Il faut aussi bien avoir en tête qu'on est en plein pendant la guerre froide. Donc, il y a une opposition, en gros, hein, pour le faire très vite, entre les catholiques qui sont dans une... Voilà, bon, ça, c'est pas très, très étonnant. Il y a une injonction à la natalité. Et puis, de l'autre côté, le bloc communiste, qui, en fait, a vraiment cette conviction qu'il faut repeupler la France, mais, en fait, pour renforcer la classe ouvrière. Donc, en fait... c'est aussi un moment où les femmes sont vraiment poussées à rester à la maison et à avoir des enfants, là où il y a eu une sorte de de courtes périodes où elles étaient plutôt invitées à aller travailler. Donc c'est une période de transition qui, et ça c'est un point qui a bien été souligné par Michel Ledeuf, qui en fait aussi l'intérêt de ce livre aujourd'hui, parce que ben, nous on est aussi dans une période de transition. À la fois on a eu des avancées importantes avec le droit à l'avortement qui a été inscrit dans la Constitution récemment, et puis en même temps il y a encore tout un tas de choses qui vont pas pour les femmes, l'égalité professionnelle, l'égalité de salaire, l'accès à des crèches, enfin tout un tas de choses qu'on nous promet constamment et puis qui n'arrivent pas. Donc voilà un peu ce contexte et à quel point il peut parfois aussi répondre avec le nôtre.
Le deuxième sexe, du fait de son statut de pionnier, a été qualifié, je cite, de petit livre rouge du féminisme, rédigé par une bourgeoise décadente, bible du féminisme, écrite par une femme misogyne. Quelle fut la violence de la réception en France ?
Oui, bah alors pour les raisons que je viens d'énoncer, c'est une réception qui est très scandaleuse, très violente. Mais il faudrait peut-être préciser le fait que, alors comme je le disais, il y a deux volumes, hein, Les Faits et les Mythes, qui paraît donc avec ces trois avant-textes, et puis le livre paraît, et quasi en même temps, donc le premier volume paraît, et puis il y a les avant-textes du second volume, donc sur l'expérience vécue. Et en fait, là où le premier volume était passé relativement inaperçu, c'est vraiment les avant-textes du second volume qui vont faire scandale. Alors, évidemment, c'est quand même toute la question, on se l'est un peu reposé au moment de l'édition, à quel point Beauvoir avait conscience du scandale que ça allait créer en choisissant ces textes-là parmi le volume. Ça reste une vraie question, parce que il y a l'initiation sexuelle de la femme, donc vraiment le chapitre où on parle de la sexualité des femmes. Il y a une sorte d'avant-texte qui réunit à la fois la question de la maternité, mais en réalité, c'est plutôt la question de l'avortement, et qu'elle va associer en fait avec la question de l'homosexualité. Donc là où dans le volume qu'on peut lire aujourd'hui, ben, on commence d'abord par le chapitre sur la lesbienne qui va terminer la partie sur la formation, ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, hein, c'est une place que les spécialistes ont déjà interrogé. Et puis après, on va avoir un chapitre sur la maternité plus tard. Là, Beauvoir décide de les associer en disant, bah voilà, finalement, deux destins possibles pour les femmes, à la fois le fait d'être mère ou le fait d'être une lesbienne. Et évidemment, dire ça en 49, c'était quand même assez audacieux. Et Beauvoir elle-même, hein, dans les années 70, regrettera en fait d'avoir finalement choisi ces textes-là, parce que ça va parasiter complètement en fait la réception. Alors, qu'est-ce qui choque ? Déjà, ce qui choque, c'est le fait qu'une femme parle des choses de la sexualité des femmes avec la philosophie. Et c'est vraiment ce triptyque, en fait, qui détonne. C'est Nadeau qui, dans sa critique, qui est plutôt un défenseur, en fait, de Beauvoir, mais qui montre bien qu'il y a une forme de malaise parce que c'est une femme philosophe qui parle de sexualité. À tel point que la critique se demande à quel point, en fait, ce qui l'intéressait, c'était pas plutôt la sexualité, et qu'elle a essayé, en gros, de vernir, d'enrober un peu le tout avec une sorte de jargon existentialiste qui n'a pas sa place. Alors que, précisément, c'est ça que veut faire Beauvoir. C'est de parler des choses concrètes de la vie des femmes, mais d'en parler en philosophe. La deuxième chose qui surprend dans ces textes, c'est les matériaux. C'est-à-dire qu'elle associe en fait des choses qui n'ont jamais été tellement associées avant, c'est-à-dire des rapports d'études cliniques, des confidences faites par des amis, des grands classiques de la littérature écrits à la fois par des hommes et par des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très visible dans le rapport qu'Hannah Arendt va faire, puisque assez rapidement, vu le succès du livre, une traduction en anglais est envisagée. On va essayer de trouver en fait quelqu'un pour faire une sorte de compte-rendu, pour voir à quel point quel est le public en fait visé par l'essai. Ils envisagent tout un tas de noms, à la fois des psychanalystes, des littéraires, des philosophes, parce qu'on ne sait pas à qui faire lire cet essai. Finalement, bon, c'est Hannah Arendt qui est choisie, et elle dit, en fait, ça, le fait que soient mis sur le même plan des confidences intimes et des grands classiques de la littérature, alors même qu'elle choisit parfois certains classiques qui ne sont pas si classiques que ça. Enfin, cette hétérogénéité générique, ça va vraiment choquer. Ce qui choque aussi, c'est le fait qu'elle choisit ses avant-textes et qu'elle les publie dans les temps modernes, qui étaient, depuis quelques années, quand même perçus comme une revue intellectuelle de grande ampleur, une revue de littérature et de philosophie. Et le fait que, voilà, on décide de publier ces textes-là dans la revue, ça va choquer notamment Mauriac, alors qu'il va sans doute l'utiliser un peu comme un prétexte pour casser du sucre sur Sartre. C'est sans doute ça, mais quand même, il insiste beaucoup sur l'immoralité, en fait, de la littérature. Et ce qui est visé, c'est vraiment la revue littéraire des temps modernes qui a décidé de publier ces textes-là. Et puis, mettre sur le même plan l'homosexualité et la maternité et l'avortement, enfin, tout ça, c'est évidemment très scandaleux. Alors, on a beaucoup critiqué ce chapitre sur la lesbienne, tu le sais mieux que moi, mais ça reste un chapitre qui refuse de considérer l'homosexualité comme une pathologie et qui légitime en fait tout à fait ce choix, qui est un terme important, la question du choix de l'homosexualité. Et puis de l'autre côté, parler d'avortement dans cette période que je décrivais tout à l'heure, période ultra-familialiste, alors que évidemment c'était interdit et passible de plusieurs années d'emprisonnement, c'est profondément scandaleux.
Donc, Le deuxième sexe est un ouvrage pluriel. Il convoque à la fois les sciences naturelles aussi bien que sociales. Donc, le premier chapitre est consacré à la biologie, le second à la psychanalyse, le troisième au matérialisme historique. Et il est suivi par une partie sur l'histoire et l'anthropologie. Et la seconde partie, comme vous l'aviez dit, est consacrée à l'expérience vécue par une approche phénoménologique. Comment donc doit-on lire Le deuxième sexe ? Comme une ontologie, une anthropologie, une phénoménologie ou bien une philosophie politique et morale?
Ouais, c'est une question qui est difficile. Et je pense qu'on pourrait peut-être revenir aussi sur cet objet en fait, que vous avez devant vous, qui est un objet en fait, qui est très bizarre. C'est la première fois que Le deuxième sexe il paraît en fait, sous cette forme unifiée, sous la forme d'un seul livre. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait déjà eu une édition en 85 pour France Loisirs, où il y avait eu une introduction de Benoît de Groot, et c'est vrai que moi je la connaissais pas en fait cette édition, et je pense qu'elle a, enfin je sais pas si quelqu'un ici l'avait déjà aperçu, moi je l'avais jamais vu, donc c'est vrai que c'est plutôt un livre qu'on tient avec nos deux mains, et là c'est un peu par là que je suis rentrée aussi moi dans la lecture du deuxième sexe, c'était de me dire en fait qu'est-ce que ça change dans notre lecture du texte, le fait que tout à coup ça devient un seul ouvrage. Et c'est une question qui est assez, finalement, assez difficile parce que, alors là, je schématise énormément parce que, évidemment, qu'il y a des spécialistes qui connaissent aussi bien le premier volume que le second, mais malgré tout, on peut se rendre compte qu'il y a plutôt des spécialistes qui ont travaillé fortement les faits et limites, plutôt d'ailleurs d'un point de vue, disons, de la philosophie analytique. Et puis, comme tu le disais, il y a ce second volume qui est plutôt, puisque ça concerne l'expérience vécue, qui est plutôt effectivement étudié par les phénoménologues. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était que tout à coup, on passait en fait de la fin du premier volume directement en froissant cette petite page de papier bible très très fine, mais très très chère, du premier volume au second. Et je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que ça fait à la lecture du texte? Et ça interrogeait en fait le caractère, le caractère organique du deuxième sexe. Alors que, comme tu le disais, c'est un texte qui est très polymorphe, où elle va brasser en fait tout un tas de disciplines, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, puisque si on revient sur le début, sur le début de la Genèse, en 46, quand elle reprend ce désir de vouloir écrire sur elle et qu'elle se dit maintenant il faut vraiment que j'interroge en fait ce qu'est une femme, elle va d'abord vraiment s'intéresser à la question des mythes et à l'action de l'histoire. Tout en hésitant en fait sur l'ordre. Est-ce que en fait il faut d'abord commencer par les mythes de l'éternel féminin ou est-ce que je commence plutôt par les données historiques? Bon, elle hésite. Finalement, elle va plutôt commencer par ce qu'elle appellera les faits avant de passer au mythe. Mais c'est vraiment le noyau dur, quoi. Donc ça, c'est grosso modo l'automne 46. Et puis, elle part aux États-Unis. Elle part aux États-Unis dès le début de l'année 47. Et là, elle emporte les feuillets qu'elle avait composés à l'automne 46. Elle veut recommencer à écrire, d'autant plus que... quand elle part aux États-Unis grâce à Philippe Soupeau, elle n'est pas payée en fait pour faire cette tournée dans les universités américaines, donc il faut lui trouver du sou. Donc elle décide de vendre un certain nombre d'articles à des revues. Donc elle décide de reprendre un peu ce travail là. Elle n'y arrive pas parce que là elle se rend compte que l'expérience qu'elle est en train de vivre, à savoir ce voyage aux États-Unis en 47, ben, il faut qu'elle l'écrive. Donc elle met un petit peu en suspens l'écriture du deuxième sexe. Mais évidemment, ce qu'elle découvre aux États-Unis, ça va profondément influencer l'écriture du deuxième sexe, et particulièrement un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est la lecture d'un livre qui est pas extrêmement connu, qui date de 37, qui est un livre de John Dollard, qui s'appelle Cast in Class in a Southern Town. Donc John Dollard, c'est un sociologue qui veut écrire sur une ville. Plutôt sur l'expérience vécue par des Noirs d'une petite ville du sud des États-Unis. Et il veut vraiment, en fait, faire des entretiens et collecter des entretiens. Et il se rend compte qu'il ne peut pas faire ça sans s'interroger sur la structure de la ville, sur la question des lois, sur, la vie des Blancs dans cette ville-là. Donc là, on retrouve aussi quelque chose que Beauvoir avait... déjà un peu pensée et qu'elle va retrouver dans le livre de Myrdal, hein, l'idée que le racisme, c'est pas un problème de noir, c'est un problème de blanc. Beauvoir pense exactement la même chose pour la question du sexisme, même si ce terme n'existe pas encore. Et dans ce livre de John Dollard, ce qui va la frapper, c'est la question de la méthode. C'est-à-dire que John Dollard va d'abord... commencer par plutôt les biographies, les entretiens et les biographies, et puis s'intéresser plutôt à la question des faits, à la question de l'histoire sociale, l'histoire de la ville, etc. Et Beauvoir dit, en fait, cette méthode me plaît, et je pense que il y a cette ambition chez elle de reprendre cette idée-là, mais elle va faire l'inverse, c'est-à-dire elle va commencer par les faits et les mythes, et puis arriver plutôt à l'expérience vécue des femmes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de se dire, elle fait ça ensemble. C'est-à-dire que il faut pas juste additionner en fait l'expérience vécue et la question des faits et des mythes. L'ambition de Beauvoir, alors j'ose le terme de dialectique, même si c'est un peu un terme fourre-tout et j'ai toujours peur quand j'utilise en présence de philosophes, mais il y a cette idée, voilà, qui est une sorte d'aller-retour en tout cas. Entre l'influence que les structures sociales ont sur les individus et inversement ce que les individus font aux structures sociales. Et c'est ça, en fait, la dimension, à mon sens, organique du deuxième sexe et aussi l'intérêt de l'avoir en un seul volume aujourd'hui dans la Pléiade. Je pense que ça, en fait, ça apporte quelque chose de nouveau à la lecture de l'œuvre, enfin, je l'espère.
Vous dites que Françoise Debaune fut la première au sein d'une longue série à avoir isolé la phrase qui ouvre le chapitre 1 consacré à l'enfance « On ne naît pas femme, on le devient », qui est elle-même une reprise de Érasme, de son traité de l'éducation « On ne naît pas homme, on le devient ». Comment doit-on lire aujourd'hui cette phrase sans anachronisme et sans déformation ?
Oui, alors c'est une question difficile. Alors, c'est pas moi qui le dis. Enfin, c'est Sylvie Chaperon qui repère que c'est sans doute Françoise Debaune qui est la première à dans le complexe de Diane à reprendre cette expression pour en faire un peu une sorte de substrat philosophique de l'essai. On a republié aussi dans la Pléiade les prières d'inséré. Et en fait, la phrase apparaît dans le prière d'inséré du second volume. Donc, ça a sans doute aussi permis en fait ce transfert. Et c'est assez frappant. Enfin, on peut à la fois le comprendre parce que ça ouvre le deuxième volume. Mais pourquoi cette phrase plutôt qu'une autre Et je pense que c'est une phrase qui, effectivement, a tellement été citée, recitée, réutilisée, transformée dans tous les sens possibles et inimaginables. Que parfois on a un peu du mal à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et je pense que c'est une vraie question, parce que c'est plus ambigu ou plus complexe que ça en a l'air. Benoît de Groot, justement, dans l'introduction du livre dont je parlais tout à l'heure, de cette édition, cette première édition en un seul volume, elle disait que c'était une phrase un peu simpliste par rapport à l'essai. Moi, je pense au contraire, hein, que c'est une phrase qui représente assez bien la complexité de la prose philosophique de Beauvoir. Parce que cette phrase, « On ne naît pas femme, on le devient », elle pose au moins deux questions. C'est-à-dire, déjà, d'un point de vue axiologique, en fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de devenir une femme ? Est-ce qu'elle décrit, en fait, ce devenir femme, c'est une sorte de devenir négatif ou c'est un devenir qui est plutôt positif ? C'est pas dit. Et puis, la deuxième question que ça pose, c'est qui participe à ce devenir ? Est-ce que c'est la société qui s'abat sur le sujet féminin et qui va... participer complètement à cette construction, ou à quel point le sujet féminin participe à se devenir femme. Et quand est-ce que ça s'arrête aussi, se devenir femme ? Est-ce que ça peut s'arrêter ? Donc en fait, ça pose tout un tas de questions, et je pense que Beauvoir, elle tranche pas. Enfin, dans cette phrase-là, tout ça reste en suspens. Et ce qui fait en fait la richesse et la complexité de l'œuvre de Beauvoir, c'est que elle ne tranche pas. Et ce qui va se poser évidemment comme question et comme difficulté, c'est au moment de traduire cette phrase. Et dans plein de langues, tout à coup, on peut pas garder cette ambiguïté et cette complexité. Et c'est très visible dans les deux traductions en anglais. Donc je vous parlais d'Anna Arendt qui avait été consultée pour cette première traduction qui va être faite par Howard Pashley, qui a été très, très critiquée, notamment parce qu'il y avait énormément de coupures qui ont été découvertes seulement 30 ans plus tard, dans les années 80. Margaret Simons, une des premières, qui va se rendre compte que, mais en fait, il manque énormément de passages dans la traduction. Et puis, plus récemment, à la fin des années 2000, il va y avoir une seconde traduction. Et cette phrase va être traduite de deux manières, c'est-à-dire « become a woman » ou « becoming a woman ». Alors, Pashley, il disait « become a woman », donc là, on est plutôt dans une lecture une femme parmi d'autres, mais pas une femme construite, on n'est pas dans une lecture constructiviste. Là où, dans la traduction plus récente, ça va être « become woman », où là, on est plutôt dans une lecture constructiviste de la phrase. Et il faut trouver en fait des sortes de subterfuges pour garder en fait cette ambivalence de la pensée de Beauvoir. Et moi, j'aime assez bien, et on le retrouve beaucoup dans des articles en anglais aujourd'hui, de mettre le petit A entre parenthèses, quoi, pour justement pas trancher, parce que Beauvoir, elle tranche pas, et c'est justement ce qu'en fait son caractère enrichissant.
Vous écrivez que la lecture butlerienne des écrits de Beauvoir peut induire une perte du sens initial du geste beauvoirien en 49, pourquoi ?
Alors, de nouveau, question difficile et qui revient en fait à une lecture partielle aussi de « on ne naît pas femme, on le devient ». Mais moi, je trouve que les lectures qui sont partielles et qui sont partielles, elles sont aussi parfois intéressantes parce qu'elles vont permettre en fait des constructions de nouvelles perspectives philosophiques et de nouvelles philosophies. Et c'est clairement ce qu'a fait Butler. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un numéro de légende sur Beauvoir. Il y a un entretien de Butler où elle dit qu'elle avait lu en fait des parties seulement du deuxième sexe. Bon, alors évidemment, je dis pas qu'elle a lu que ça. Je pense que sa première lecture, ça a été beaucoup l'introduction, et puis effectivement ce chapitre sur l'enfance où il y a cette phrase qui apparaît. Et je pense que si on se fonde uniquement sur des parties de l'œuvre de Beauvoir, on peut aller dans une lecture où on va nier complètement l'importance de la biologie et des différences biologiques chez Beauvoir. Et c'est même assez tentant, parce que y a cette critique de Butler, mais au même moment, Christine Delphi qui s'oppose en fait à la distinction du sexe et du genre, avec cette idée que justement, en distinguant le sexe et le genre, on va plutôt renforcer la dimension du sexe, la dimension biologique, avec cette idée que parce que c'est pré-social, ça va être plus pur, enfin, on peut très vite tomber dans ces dérives-là. Donc c'est tentant en fait de lire le deuxième sexe avec les lunettes de Butler, mais je pense malgré tout que c'est pas ce qu'on retrouve dans la pensée de Beauvoir. Chez Beauvoir, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais ce qui fait quand même la force de sa pensée, c'est que ces différences biologiques, elles signifient rien. C'est-à-dire que ce qu'on en fait, comment on les pense, Ça, c'est, on est tout à fait libre de ça. Mais en revanche, elle ne cesse quand même de parler en fait du corps des femmes et de faire en fait des considérations biologisantes dans l'essai qui sont assez fortes et qui fait en fait que cette phrase "on ne naît pas femme, on le devient" va à la fois être récupérée par Butler et par des personnes transphobes. Donc c'est aussi toute l'ambiguïté de la phrase.
Et pourquoi ne peut-on pas assimiler chez Beauvoir le sujet collectif femme à une classe au sens marxiste?
Ouais, ça aussi, c'est une des difficultés de... Enfin, cette question-là, elle pose en fait le rapport de Beauvoir au marxisme dans l'essai, qui a un rapport assez compliqué. Parfois, on a un peu tendance à résumer la pensée philosophique de Beauvoir en deux temps, en se disant, bon, ben voilà, il y a le deuxième sexe, mais qui est un peu décevant parce qu'elle termine... en appelant à la révolution socialiste et en disant qu'en gros, quand il y aura cette révolution socialiste, ça ira mieux pour les femmes et que en fait, il n'y a pas besoin de faire grand-chose puisque ça viendra en fait un peu de soi. Donc, on peut le lire un peu comme ça et puis se dire, bon, dans les années 70, elle se rend compte que en fait, la révolution socialiste, elle ne va pas offrir cet univers merveilleux pour les femmes, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que dans le deuxième sexe, elle est à la fois très proche du marxisme et en même temps très critique. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est très critique, surtout dans le chapitre sur le matérialisme historique, donc qui arrive au début du premier volume, et elle est plutôt moins critique, voire très marxiste, dans le reste de l'ouvrage, et notamment dans la partie histoire. Et ça, ça a déjà été bien montré, et c'est aussi lié un peu à alors, je ne sais pas si on parlerait de stylème de Beauvoir, mais un peu une sorte de processus d'écriture, elle a parfois tendance à plutôt citer les gens qu'elle va critiquer et à pas trop citer les gens qu'elle va reprendre. Mais effectivement, dans le chapitre sur le matérialisme historique, elle va dialoguer avec Engels et surtout avec l'ouvrage hein, L'origine de la famille. Et elle va s'opposer en fait à plusieurs points de la théorie de Engels. Déjà, elle va s'opposer à cette idée qu'il y aurait eu un matriarcat avant l'instauration du patriarcat, qui est une idée que Engels reprend à Bachofen. Et elle dit, mais non, il y a toujours eu une domination, alors certes, qui pouvait pas être associé véritablement à un patriarcat au sens strict dans les communautés, alors qu'elle qualifie de primitives, elle considère qu'il y avait déjà une domination des femmes par les hommes. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle critique en fait le fait que Engels aurait pas réussi en fait à justifier pourquoi la naissance de la propriété privée aurait forcément conduit à un asservissement des femmes. Et elle dit, en fait, il ne l'explique pas. Il pose un peu les deux éléments, mais il ne le justifie pas. Et elle le justifiera en 49, en sortant la carte de la dialectique du maître et de l'esclave et de cette opposition constante d'un sujet qui veut constamment s'opposer et faire de l'autre un objet, etc. Donc, ce qui n'est pas peut-être pas extrêmement convaincant, mais voilà, elle se rend compte en tout cas qu'il y a une sorte de lacune dans le texte de Engels qu'elle va essayer de corriger. Et puis, ce qu'elle reproche à la pensée marxiste, c'est d'essayer de faire des femmes une sorte de classe sociale en tant que telle. Et elle dit, mais en fait, ça peut pas marcher. Cette analogie-là, elle marche pas, et elle marche pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand même l'ambition de la révolution socialiste c'est la suppression de la classe ouvrière, c'est que il y aura plus en fait les capitalistes et les prolétaires, ça n'existera plus. Elle dit en fait on peut pas envisager ça pour les femmes, et là on retrouve un côté peut-être plus biologisant, enfin en tout cas il y a cette idée que il y aura toujours des femmes et que les femmes ne peuvent pas en fait dépasser cette condition de départ. Raison pour laquelle elle va privilégier le terme de caste à celui de classe, et qui est un terme qu'elle emprunte au système indien de manière un peu maladroite. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle ne pense pas cette analogie jusqu'au bout, et c'est quelque chose qu'on va reprocher, mais elle n'est pas du tout la seule. Dans les années 70, il y a beaucoup de féministes qui utilisent hein, ce terme de caste et qui est aussi lié au fait que ben, ces féministes, elles bricolent avec ce qu'elles ont et donc elles bricolent un peu comme ça. Et puis, il y a un autre élément qui me paraît intéressant dans cette critique en fait, de l'analogie des femmes à une classe sociale un peu propre, c'est qu'elle insiste beaucoup sur la communauté de vie et d'intérêt. Et ça, c'est une question qu'elle pose en fait à Engels. Elle dit, mais OK, il y a la propriété privée et puis il y a l'asservissement des femmes. Mais en fait, pourquoi il y a cet asservissement des femmes? Parce qu'il aurait pu y avoir ce qu'elle appelle une amicale association. Et elle pose quand même la question des liens, en fait. Entre les hommes et les femmes, il y a des liens. Alors qu'ils ne sont pas uniquement les liens de l'hétérosexualité. On a beaucoup reproché le fait que le deuxième sexe soit une pensée assez hétéronormée. Je pense que c'est une critique qui se vaut à plein d'égards. Mais là, ce n'est pas ça qui se joue. C'est qu'en fait, dans la société, il y a plein de liens entre les hommes et les femmes. Et autant ben, entre les prolétaires et les bourgeois, il y a vraiment des séparations à plein d'égards dans la manière de se vêtir, dans les endroits, etc. Ben, en fait, c'est un peu plus flottant, c'est un peu plus compliqué de voir ces oppositions entre les hommes et les femmes. Il y a quand même, ben, ne serait-ce qu'en si on pense à la question de la famille, comment on fait? Et là, on retombe un peu, effectivement, sur une famille hétéro. Et elle pose cette question-là. Elle dit, bon, ben, Engels, une des solutions d'Engels, c'est l'abolition de la famille. Et elle dit, mais en fait, OK, mais concrètement, comment on fait pour abolir la famille? Puisqu'on ne peut pas obliger les femmes à avoir des enfants et on ne peut pas obliger les femmes à ne pas en avoir. Et ça, c'est assez. C'est un passage que j'aime beaucoup dans le deuxième sexe, c'est qu'elle dit, bah, effectivement, on ne peut pas obliger les femmes à avoir des enfants, on ne peut pas obliger les femmes à ne pas en avoir. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout pour que les femmes se retrouvent dans une situation où elles ne vont pas pouvoir trouver de travail. Elles vont être contraintes, en fait, depuis qu'elles sont toutes petites, à se tourner vers un homme et à l'admirer, à se marier avec un individu. Et puis, une fois qu'elle va se retrouver dans cette maison complètement isolée parce qu'elle ne pourra pas travailler, bah, en fait, ouais, elle va faire des enfants parce que c'est la seule chose pour s'occuper. Et donc, elle montre, en fait, qu'il y a une forme de contrainte. Alors, elle parle beaucoup des mythes. Elle parlera plus tard, hein, plutôt de superstructures, mais il y a vraiment cette idée où elle va dialoguer profondément avec le marxisme tout en le critiquant, et d'où aussi ce rejet du terme de classe. Et puis là, une opposition qui va se retrouver dans les années 70 avec quelqu'un comme Monique Wittig qui reprend hein, ce terme de classe et que Beauvoir, elle n'utilise absolument jamais. Elle rappelle, hein, non, les femmes, ce n'est pas une classe, c'est une caste, précisément parce que là où il y a des transfuges de classe, ben, pour Beauvoir, il n'y a pas de transfuges de sexe. Et alors, bon, évidemment, là, c'est là où, à mon sens, il y a aussi certaines limites, parce que Emmanuel Beaubatine, notamment, a bien étudié la question des transferts de sexe.
Grâce au nouveau volume Gallimard, on peut percevoir justement qu'il y avait peut-être déjà une pensée féministe avant même le deuxième sexe en 1949, et que celle-ci va être renouvelée bien au-delà. Là où on a tendance à la réduire seulement au texte de 49.
Oui, c'était alors donc les deux textes ils paraissent en même temps, mais peut-être qu'on peut revenir sur le fait qu'ils n'ont pas été pensés au même moment. Ça fait plusieurs années en fait que on travaillait avec Sylvie Le Bon de Beauvoir, qui est la fille adoptive de Simone de Beauvoir, à l'édition des Écrits et Paroles féministes. Et je vous parlais un peu de cette opposition simpliste entre le moment théorique, individuel du deuxième sexe et puis le moment des années MLF, la période des années 70 où Beauvoir abandonne la théorie au profit du militantisme, au profit de quelque chose de beaucoup plus collectif, ce qui n'est pas une opposition qui est complètement fausse. Mais qui, en fait, mériterait d'être complexifié à plein d'égards. Et une des manières de le complexifier, ben, c'est de regarder ce qui vient avant, ce qui vient entre et ce qui vient après. C'est-à-dire, ben, ce qui vient avant, c'est un peu les avant-textes dont je vous parlais tout à l'heure, hein, les textes surtout de 47. Ce qui vient entre le deuxième sexe et la période éclatante des années 70, ben, c'est les années 50-60, qui sont, de manière générale, des décennies un peu boudées par les histoires du féminisme, parce que ben, c'est sûr que par rapport aux années 70, ça vend un petit peu moins de rêves. Et en même temps, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a notamment la création de la maternité heureuse qui va devenir le planning familial et que Beauvoir va soutenir en préfaçant en fait, les ouvrages de Lagroix Vaillalé et de Evelyne Sullereau. En soutenant justement plutôt, alors moins une défense de l'avortement, parce que là elle va plutôt suivre aussi les stratégies en fait du planning familial, c'est-à-dire plutôt une défense de la contraception, avec cette idée que bah, en fait, si la contraception est unanimement accessible, bah, en fait il y aura plus d'avortement. Elle se rend compte que en fait ça marche pas comme ça et que on peut pas se limiter à ça, donc elle va revenir à la défense de l'avortement dans les années 70. Mais bon, il y a ça, il y a notamment ces questions-là. Il y a la question du travail qu'elle ne cesse en fait de penser. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a titré la deuxième partie du volume plutôt sur les textes des années 50-60. C'est vraiment des moments où, autant dans les années 40, la question du travail des femmes, elle pouvait vraiment se poser, autant quand même. Dans les années 50 et surtout dans les années 60, c'est plus tellement un sujet, mais elle va plutôt s'intéresser aux ambivalences, c'est-à-dire à la fois les souffrances en fait des femmes qui travaillent, mais qui en fait ressentent une culpabilité très forte à ne pas s'occuper davantage des enfants, et puis elle montre aussi toutes les difficultés professionnelles que les femmes vont auxquelles les femmes vont être confrontées, donc ce fameux plafond de verre, hein, c'est pas une expression qu'elle utilise, mais en fait qu'elle ne cesse de décrire. Et plafond de verre qui est à la fois créé par la société, mais par les femmes elles-mêmes. Et ça, c'est aussi un des grands principes de Beauvoir qui a été bien mis en évidence par Manon Garcia, à savoir que, pour reprendre l'épigraphe du deuxième sexe, les femmes, elles sont complices et soumises. Elles participent, en fait. Elles sont complices aussi de leur domination. Et pour la question du travail, un point sur lequel insiste beaucoup Beauvoir, c'est que parfois, ben, les femmes sont tellement déjà contentes d'avoir un travail qu'elles ne vont pas se battre pour avoir le salaire qu'elles méritent ou pour accéder au poste qu'elles mériteraient en fonction de leur formation, etc. Donc il y a la question du travail et puis il y a la question aussi de la guerre d'Algérie et du soutien à Djamila Boupacha qui est un autre élément central et qui va aussi montrer une sorte de dimension plus collective au féminisme de Beauvoir hein, qui prend naissance en fait au début des années 60 aussi. Après, bon, il y a cette période évidemment très connue des années 70. Et puis, il y a la période des années 80, qui est une période, pareil, qu'on a tendance à un peu moins évoquer, alors que pendant 5 ans, Beauvoir va être très proche d'Yvette Roudy, qui était la ministre du ministère de la Condition de la Femme, sachant que c'est tout à fait nouveau, hein, c'est sous Mitterrand. Sous Giscard, il y avait eu un secrétariat d'État, mais qui dit secrétariat d'État dit beaucoup moins de financement. En plus, c'était Françoise Giroud qui était à la tête de secrétariat d'État, qui n'était pas du tout appréciée des militantes du MLF, qui se moquaient en fait ouvertement du fait qu'elle ne se disait pas féministe déjà. Alors qu'Yvette Roudy, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui était une militante du MLF, qui avait été vraiment reconnue, notamment parce qu'elle avait traduit La femme mystifiée de Betty Friedan. Et puis voilà, il y a cet espoir hein, que parce qu'elle est à la tête d'un ministère, il va y avoir des changements et Yvette Roudy va demander à Beauvoir d'appartenir à une commission intitulée Femmes et Culture, qui m'a beaucoup intéressée au moment où je travaillais sur le recueil. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de traces de ce qui s'est dit dans ces réunions. Mais en tout cas, elles étaient bien notées dans l'agenda d'Yvette Roudy. Donc c'est sûr qu'il y en a eu quand même une petite dizaine, mais j'ai pas beaucoup de traces. Donc si quelqu'un a des archives, je suis vraiment intéressée par ça. Mais voilà, donc elle est assez proche à ce moment-là d'Yvette Roudy. Et c'est un féminisme qui est un peu plus institutionnel et qui est tout à fait représentatif, en fait, dès ces années 80 et du tournant, en fait, plus institutionnel que prend le féminisme dans ces années-là, qui sont marquées en fait par ce qu'Alison Woodward a appelé le triangle de velours, c'est-à-dire une sorte d'association entre les organismes plutôt militants, les universitaires et puis le féminisme d'État.
Quelle a été au fond la leçon de mai 68 pour le féminisme qu'on retrouve justement dans cette évolution puisque les textes sont datés?
Oui, alors mai 68, c'est un moment important, disons, à trois égards. Déjà, c'est un moment où ce grand espoir d'une révolution socialiste, c'est un espoir qui commence un petit peu à disparaître. Et là, bon, ben, y a évidemment le... Bon, le grand bond en avant qui avait fortement marqué Beauvoir, qui était parti en Chine bon, avant 58, mais voilà, qui avait été assez optimiste en fait de ce régime communiste et des effets que ça allait avoir surtout sur l'accès au travail pour les femmes. Et puis bon ben la Hongrie. La Tchécoslovaquie, ben, tout ça, ça crée hein, une forme de désillusion très forte. Donc il y a vraiment cette idée que bon, la révolution socialiste ne va pas permettre en fait, de passer à une forme de préhistoire, à une histoire des femmes, ça c'est sûr que non. Mais Beauvoir, elle n'abandonne pas l'idée de révolution pour autant. Il y a une citation que j'aime bien dans un des entretiens, c'est un tag qu'elle avait vu en Italie et qu'elle cite à un moment. Elle dit il y a un tag que j'aime bien et qui dit il n'y a pas d'émancipation de la femme sans révolution et il n'y a pas de révolution sans émancipation de la femme. Et c'est plutôt ça, en fait, le tournant de 68, c'est plutôt l'idée que... Il faut mettre les deux sur le même plan. Et ça, évidemment, pourquoi 68 aussi parce que, et ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans les récits des féministes du MLF, c'est que, en fait, les gauchistes demandaient juste aux militantes d'aller faire le café et de garder les enfants et voulaient la tribune pour eux seuls. Et donc ça, c'est quand même une grosse désillusion de ce que l'extrême gauche allait pouvoir apporter aux femmes. Le deuxième point qui est important, c'est la lecture des féministes américaines. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant quand on lit le volume à la suite. C'est à quel point elle cite les Américaines. Elle cite pas tant d'autres féministes. Alors, elle cite Elena Bellotti. Il y a quelques livres voilà, de françaises aussi qu'elle cite, mais c'est surtout les Américaines. Et La femme mystifiée, c'est un livre qui l'a beaucoup marqué aussi parce que c'est un livre qui pense la question des femmes dans ses liens avec la consommation. Et c'est aussi une autre manière d'aborder le problème. Et donc ça va aussi, frapper Beauvoir. Donc tout ça va faire que Beauvoir va modifier un petit peu son rapport au féminisme. Et puis, effectivement... il y a un rapport qui est très différent à la théorie, à la pratique, puisque, et là, elle annonce hein, tout à fait les épistémologies des points de vue situés, avec cette idée que pour écrire de la théorie, il faut en passer par la pratique, et pas l'inverse. Et donc, c'est se plonger, en fait, dans le bain du militantisme, dans les formes collectives, et c'est très visible, en fait, dans le volume des écrits et paroles féministes, c'est que plus on avance dans le temps, moins il y a des conférences, moins il y a de préfaces, et plus il y a des entretiens. Et je pense que c'est assez représentatif de ça, c'est-à-dire, tout à coup, Beauvoir, elle veut dialoguer, elle veut plus parler toute seule, et... Il y a un entretien qu'on n'a pas repris, mais vous allez comprendre pourquoi, mais qui est assez représentatif de ça. C'est une des dernières interventions de Beauvoir. On est en 85. Elle passe pour la dernière fois à la télévision et elle dit très clairement, bon, elle est assez âgée à ce moment-là, elle va mourir en 86. Et elle dit, on m'a demandé d'apparaître encore une fois à la télévision, j'accepte. Mais en fait, moi, j'ai plus rien à dire. Donc, je prends un peu en otage le plateau de télévision pour inviter mes amies féministes, qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, et leur donner la parole. Et donc, il y a Delphine Seyrig, Christine Delphi, il y a Anne Zelinsky, et elle leur pose des questions. Et elle est dans cette position d'intervieweuse, et ça, c'est effectivement tout à fait nouveau. Et c'est à la fois moi, j'aime bien le fait que les deux textes paraissent ensemble, un essai plus individuel, beaucoup plus théorique, beaucoup plus approfondi aussi en termes de pensée. On va évidemment pas retrouver cette densité dans les écrits et paroles féministes. Mais ce qui est assez frappant dans les écrits et paroles, c'est ce dialogue. Et puis, c'est l'importance de l'oral, alors qui a effectivement posé tout un tas de problèmes. Mais comme Sylvie connaissait très bien aussi le phrasé de Beauvoir, quand je retranscrivais, elle lisait et puis elle me disait « Ah non, mais jamais Beauvoir, elle dit ça, vous avez mal compris. » Il y a eu des moments où c'était des quiproquos assez, assez marrants, d'ailleurs. Et gênants, pour moi, d'ailleurs. Mais donc, voilà. Donc c'est aussi deux moments qui vont ensemble. Et je pense que je trouverais ça bien que des... Alors, c'est mon espoir profond que des nouvelles générations, elles découvrent aussi l'aspect plus militant de Beauvoir qu'on a parfois tendance à voir dans les images ou à voir dans des récits, mais pas à voir, en fait, concrètement et pas à découvrir et à lire et à étudier. Et je pense qu'il y a une richesse en fait de ces transformations en fait du féminisme de Beauvoir.
Dans un texte de 1968, Beauvoir s'assume comme ce qu'elle appelle une intellectuelle de gauche, par opposition à ce que Paul Nizan a pu nommer des chiens de garde. À ses yeux, le féminisme peut-il être autre chose que de gauche ?
Ben non. Non, non. Ben, précisément, en raison de ce fameux slogan italien que je vous citais tout à l'heure, pas d'émancipation de la femme sans révolution et pas de révolution sans émancipation de la femme. Donc, pour Beauvoir, une féministe de droite, c'est un non-sens absolu. Raison pour laquelle, moi, je pleure des larmes de sang quand je vois à quel point elle a été récupérée des années 90 par, vraiment une frange très à droite et par des féministes de droite. Et pour moi, c'est vraiment un non-sens absolu. Et ça, c'est un point qu'il faut, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est cette idée que quand elle rejoint le mouvement de libération des femmes, c'est pas du tout dans cette idée que on abandonne en fait les questions de classe et les questions des inégalités sociales. C'est vraiment cette idée qu'il faut les penser ensemble et qu'il n'y a plus de hiérarchie. Mais on la voit en fait très très proche des classes populaires dans le volume. Elle s'intéresse énormément aux grèves de femmes dans les usines. Donc, elle s'intéresse beaucoup aux grèves de Thionville, aux grèves de l'usine Lippe, qui avait été vraiment menée par les femmes. Et puis aussi à toutes les tensions et comment les maris ne voulaient pas, par exemple, que leurs femmes grévistes restent dormir à l'usine et qu'il y avait cette idée, ben non, après, c'est nous qui restons la nuit et vous rentrez. Enfin, et donc ça, c'est quelque chose qui l'intéresse très fort. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle va être très dure, enfin, elle va en tout cas considérer que la légalisation de l'avortement en 75 par Simone Veil, c'est qu'une demi-victoire, précisément parce que cette dépénalisation, elle ne va pas avec le remboursement. Donc elle dit, mais en fait, c'est vraiment une avancée qui est effectivement importante, mais qui ne permet pas aux classes populaires d'avoir accès à l'avortement. Et donc ça, c'est vraiment, et c'est Yvette Roudy qui va permettre ce remboursement. Et donc ça, on voit à quel point Beauvoir, elle est très attentive à la question de la classe. Et à quel point aussi, et ça, c'est quelque chose qui m'a assez frappée, puisqu'elle s'oppose très fort au Mao, et on le voit très bien, c'est un moment où elle est un peu en conflit avec Sartre aussi, qui est très proche des Mao, et en même temps, on voit qu'elle reprend la critique des Mao qui disent, bah, en fait, le MLF, c'est un regroupement de bourgeoises. Et parfois, à certains moments, on sent que Beauvoir, elle a peur de ça. Elle a vraiment envie que le mouvement, il puisse être mobilisé, alors plutôt par des bourgeoises de gauche, mais aussi hein, par les classes populaires.
Et notamment dans le volume, nous avons, il y a une retranscription du scandale des usines de Méru qui fait écho au dernier volume des Mémoires où elle avait justement montré ces crimes du capitalisme. Comment peut-on remobiliser cette articulation avec le féminisme ?
Oui, alors, ce qui est marrant, c'est cet entretien qui avait déjà été republié une fois dans les éditions. Alors, je pense que c'était des Indigènes. C'est un article qui est très frappant. Donc, elle va rendre compte en fait de cet incendie qu'il y a eu dans l'usine où les femmes avaient été contraintes d'allumer les machines alors qu'il y avait déjà eu des avertissements que tout allait sauter et que et les femmes avaient été brûlées vives parce qu'elles travaillaient en fait avec des produits chimiques pour faire des produits de beauté donc et elle est allée voir hein, les ouvrières en pensant aussi qu'est-ce que ça fait pour des femmes ouvrières d'être complètement défigurées quoi. Enfin, il y a aussi une réflexion qui est sur la question de la défiguration qui est assez frappante à ce moment-là. Et c'est un texte qu'un journaliste du Monde qui essaiera de faire de la connivence avec Sartre en disant mais en fait c'est pas possible que Beauvoir ait écrit cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Et Sartre se lèvera et quittera l'entretien. Et c'est pour montrer aussi à quel point en fait finalement quand on aborde les questions plutôt politiques, sociales, vraiment de la question plutôt des luttes des classes, les questions des grèves des usines, tout à coup on pense que c'est pas l'affaire des féministes. Et c'est quelque chose que Beauvoir, elle insistera aussi. Alors, je pense au projet d'émission de télévision qu'il y avait eu dans les années 70, au moment justement du passage au régime de, enfin, au gouvernement de Giscard d'Estaing, avec cet espoir que la télé soit un petit peu plus libérale, enfin que, et donc ils envisagent un moment un projet de d'émission de télé qui devait s'appeler le siècle de Sartre, et donc ils commencent à penser un peu à ces différentes émissions, et là tout fier, Sartre va trouver Beauvoir et les féministes du MLF, et va leur dire c'est super, vous allez avoir une émission, vous allez pouvoir parler que des femmes, ça va être super. Et en fait, ça va créer une crise énorme parce qu'ils disent, mais en fait, vous avez donné une émission aux Bretons pour parler de la Bretagne et vous nous donnez une émission en tant que femme pour parler des femmes. Mais nous, on est la moitié du ciel. Donc, il faut qu'on puisse parler en fait de n'importe quel moment historique qui va être évoqué pendant le siècle. Et donc, je pense que c'est assez représentatif du fait que Beauvoir, oui, elle lit toujours tout, quoi.
Nous vous remercions, Esther Desmoulins, pour cet entretien.
Merci beaucoup. Merci.